fait minuit 30, ici à Paris 22h30, à Ouagadougou.
Afrique Soir.
Et comme les lions indomptables, les Bafana Bafana, les éléphants, elle aussi cartonne. Efficace face au but et devant le micro, c'est Sylvie Berruet qui revient pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Martin Guez, fête de beaux rêves, bonne soirée à vous.
Merci.
À la une de cette édition, la République démocratique du Congo et cette veillée funèbre à Kinshasa pour rendre hommage à la légende du basket Dikembe Mutombo, star de la NBA dans les années 90. La veillée a eu lieu dans un hôpital qu'il a construit. Le procès à Paris du journaliste franco-camerounais Charles Onana, jugé pour contestation de crimes de génocide, celui des Tutsis au Rwanda en 94. L'accusé plaide la relaxe et se défend de nier le génocide. C'est du jamais vu au Niger. Plusieurs personnalités proches du président Bazoum, renversées par un coup d'État, sont déchues de leur nationalité. Relancer le processus de la réconciliation nationale en Libye, c'est l'objet de la visite de 48 heures d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine et ce sera le dossier d'Afrique Soir. À suivre le football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 avec 16 matchs ce vendredi. Et puis musique, nous retrouverons Hortense Vol à Marseille à la 33e édition de la Fiesta des Suds. À l'affiche, le Nigérian Sean Kuti et le Sénégalais Claude MC alias MC Solar. Mais d'abord, cette nouvelle illustration de l'insécurité au Burkina Faso. Deux avocats ont été enlevés jeudi soir sur l'axe Dédougou-Bobo-Dioulasso. Et selon des sources proches des victimes, cet enlèvement aurait été commis par des terroristes. Frédéric Gara.
C'est dans la nuit de jeudi, sur la route menant de Dédougou vers Bobo-Dioulasso, que l'enlèvement a eu lieu. Un groupe armé terroriste a arrêté sur la Nationale 10 le Toyota RAV4 à bord duquel se trouvaient les deux avocats. Gontran Sommé et Christian Caboret avaient décidé de contourner l'axe national 1 menant de Ouagadougou, d'où ils venaient, vers Bobo-Dioulasso, en passant par la route secondaire aux environs de Bondoukoui. Ce détour rallonge le trajet, mais s'explique par les fortes pluies qui ont inondé la Nationale 1. Un contournement malheureux, car c'est en prenant ce chemin que les deux hommes de loi ont croisé celui de leur ravisseur. C'est une passagère du véhicule qui n'a pas été retenue par les hommes armés qui a donné l'alerte de cet enlèvement. Cette région de l'ouest du Faso, comme d'autres, est réputée peu sûre. Et ce même jeudi, un bus de la société Elitis aurait échappé à une attaque terroriste juste avant le passage des deux avocats.
Au Niger, 9 responsables du régime de Mohamed Bazoum, renversés par un coup d'État en juillet 2023, sont provisoirement déchus de leur nationalité sur décret du chef du CNSP, le général Tiani. Parmi eux, le général Abou Tarka, de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, Ourissa Agboula, conseiller en sécurité du président renversé. En tout, 9 personnes soupçonnées d'intelligence avec une puissance étrangère et de complot contre l'autorité de l'État. Cela fait suite à la création fin août d'un fichier de personnes impliquées, je cite, dans des actes de terrorisme. Et c'est une première dans le pays, une première qui pose beaucoup de questions, Magali Lagrange.
Tout individu a droit à une nationalité, extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, le Niger a ratifié les textes internationaux qui interdisent de rendre une personne apatride, explique un juriste. Comment donc pourrait-on être provisoirement déchu de sa nationalité nigérienne quand on n'a pas d'autre nationalité, s'interroge-t-il. Une déchéance de nationalité provisoire, précise le document du gouvernement nigérien, suite à l'inscription des 9 individus concernés sur un fichier de personnes présumées impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de la nation. La mesure deviendrait définitive en cas de condamnation à une peine d'au moins 5 ans de prison. Selon l'une des personnes concernées par la décision du CNSP, cette déchéance provisoire de nationalité ne fait que formaliser la situation. Nous avions déjà perdu notre pays et notre nationalité puisque nous ne pouvons ni rentrer ni obtenir le moindre document administratif, commente-t-il. De l'avis de plusieurs observateurs, c'est une façon de faire taire toute voix dissidente. L'un d'eux voit dans ce décret une mesure symbolique pour discréditer les personnes concernées. Selon lui, les voix discordantes ne sont plus vues comme des opposants politiques, mais comme des traîtres à la patrie.
Et en Guinée, le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, a ordonné le retour sans délai au pays de ses ministres en déplacement à l'étranger. Il est aussi interdit à ces derniers, et jusqu'au 31 décembre, de sortir du pays, sauf accord exceptionnel du chef de l'État. Il s'agit, selon le porte-parole du gouvernement, de mesures destinées à faire des économies. Direction la République démocratique du Congo. Les obsèques du basketteur congolais Mutombo Dikembe, décédé aux États-Unis le 30 septembre à l'âge de 58 ans, auront bien lieu ce samedi à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Mais à Kinshasa, dans l'hôpital qu'il a construit il y a de cela 17 ans, le personnel soignant et les habitants de la commune de Massina, où se trouve cet hôpital, ont organisé des obsèques pour lui rendre un dernier hommage. Olga Massangou.
Plus qu'un simple hommage à Mutombo Dikembe, cette cérémonie vise surtout à démontrer l'amour et la reconnaissance du personnel de l'hôpital Marie Biamba Mutombo envers celui qu'ils appelaient affectueusement le chairman. Ils ont décidé de passer la nuit à la Belle Étoile, à la cour de l'hôpital, pour pleurer celui qui a financé et construit l'institution médicale qui les emploie depuis 17 ans et à travers cette cérémonie funéraire de communier avec la famille de l'illustre disparu qui se trouve à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Un livre des condoléances a été ouvert sur place à l'hôpital, des personnalités du quartier, de la commune et de la ville ainsi que des patients qui ont bénéficié des soins de cet hôpital défilent pour y laisser quelques mots en hommage à Mutombo Dikembe. Construit pour 15 millions de dollars américains et inauguré en 2007, l'hôpital Marie Biamba Mutombo, qui fait partie des nombreuses œuvres sociales et humanitaires réalisées en RDC par le basketteur, est un véritable soulagement pour les habitants de la commune de Massina, commune populaire de la partie est de Kinshasa. Une nuit que les Congolais vont passer à pleurer Mutombo, puisque sur demande du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, une autre veillée mortuaire ouverte au public se déroule au gymnase jumelé du Stade des Martyrs, qui sera baptisé en son nom. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
23h36 à Kinshasa. Merci à vous d'écouter Afrique Soir. On poursuit avec le dernier jour du procès de Charles Onana ce vendredi à Paris. L'auteur franco-camerounais poursuivi pour contestation du crime de génocide, celui des Tutsis au Rwanda en 94, suite à des propos tenus dans son livre Opération Turquoise, une vérité qui dérange. Mais l'accusé plaide la relaxe. Compte rendu, Florence Maurice.
Selon la procureure, plusieurs extraits du livre de Charles Onana constituent bien une négation abrupte, frontale et sans aucun détour du génocide. L'accusé, lui, s'en est défendu jusqu'au bout, y compris à la sortie de l'audience devant ses partisans.
Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. La destruction de l'enquête du juge Bruguière, il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas.
Pour Maître Baudouin, avocat de la FIDH, ces propos sont une manœuvre pour détourner l'attention du réel objet du procès.
Charles Onana a constamment essayé de ne pas évoquer la réalité des reproches qui lui sont faits dans les propos tenus, c'est-à-dire la négation du génocide. En revanche, il nous fait reproche de ne pas tenir compte des violations des droits de l'homme commises par le FPR et le régime de Kagame. Bien évidemment, nous combattons les violations des droits de l'homme massives commises par ce régime aujourd'hui, mais simplement, ce n'est pas le même sujet.
La décision des juges est attendue le 9 décembre prochain.
Et la procureure n'a pas suggéré de peine dans son réquisitoire. Elle laisse cette question à l'appréciation de la Cour en cas de condamnation. En Tunisie, pas de répit pour l'opposition. Ayash Izamel, le candidat malheureux à la présidentielle du 6 octobre, écope de nouvelles peines de prison, ce qui porte à plus de 20 ans de détention ses condamnations pour des affaires liées au parrainage. Cet industriel est en détention depuis septembre, ce qui l'a empêché de faire campagne. Il n'a obtenu que 7,3% des voix lors de la présidentielle remportée haut la main, vous le savez, 90,7% des suffrages dimanche par le président sortant Kais Saied, un scrutin marqué par un très faible taux de participation, à peine 29%. Aujourd'hui à Tripoli, demain à Benghazi, une délégation de haut niveau de l'Union africaine est en Libye. Elle vient proposer aux protagonistes une sortie de crise. Elle est dirigée par le président en exercice de l'UA, le mauritanien Mohamed Oulcher El Razouani. Présent aussi le tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA. Et enfin Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères. Car l'Union africaine en est convaincue, il n'y aura pas d'élection possible en Libye sans réconciliation préalable. Oudaï Ibrahim.
C'est donc une nouvelle tentative qu'effectue l'Union africaine pour avancer sur ce dossier libyen. La délégation africaine de haut niveau estime qu'elle s'est déplacée en Libye dans le cadre de ses efforts continus pour la réconciliation, une question décisive selon l'UA pour permettre la tenue des élections. Elle appelle à unir les efforts de tous les pays pour avancer, mais la communauté internationale reste toujours divisée sur ce dossier. Les responsables africains ont rencontré le premier ministre de Tripoli, Abdelhamid Dbeiba. Selon la plateforme gouvernementale, le président mauritanien Rezouani a affirmé que le comité de haut niveau poursuivra son travail pour arriver à la réconciliation nationale. Il a jugé nécessaire le retour de la Libye pour occuper sa place centrale au sein de l'Union africaine. L'année dernière, après de longs mois d'efforts fournis pour rapprocher le point de vue des Libyens, une date avait été trouvée pour la tenue de conférences de réconciliation. Elle est finalement tombée à l'eau après la démission de Abdoulaye Batili, l'envoyé spécial de l'ONU, ce qui a contraint le comité à ajourner le rendez-vous. Aucune date n'a encore été annoncée.
Alors quel est le poids de l'Union africaine sur la scène politique libyenne? Peut-elle peser sur les protagonistes pour une sortie de crise? Jalel Archaoui est chercheur au Royal United Services Institute. Pour lui, l'Union africaine n'a pas les moyens d'interférer dans ce pays, l'a dit à Nicolas Sûr.
C'est un thème sur lequel l'Union africaine insiste depuis plusieurs années. C'est le thème de la réconciliation. C'est un thème qui a été d'ailleurs incorporé par l'ONU sous l'envoyé spécial Abdoulaye Batili, le prédécesseur de Stéphanie Rolli, qui est actuellement l'intérimaire, donc responsable de la mission onusienne en Libye. Donc il y a toujours un petit peu un malaise, le thème de la réconciliation un petit peu décalé, puisqu'il n'y a pas vraiment un conflit très vif. Les acteurs libyens eux-mêmes font beaucoup plus attention à des acteurs qui ne sont pas africains, à l'exception de l'Égypte, c'est surtout la Turquie, les Émirats arabes unis, les États-Unis qui comptent pour les différentes factions. Donc c'est toujours un petit peu gênant de faire de l'espace pour l'Union africaine. Et là, le thème, comme je le disais, c'est celui de la réconciliation. Donc c'est un processus lent, qui est un thème différent de celui des élections, par exemple. Donc voilà, l'Union africaine est un acteur qui a la réputation de ne pas avoir d'importance pour le théâtre libyen depuis 2011.
L'Afrique a beaucoup plaidé en vain depuis le début de la crise pour son implication dans sa résolution. Est-ce qu'elle a des canaux de communication privilégiés avec les acteurs de cette crise libyenne?
Disons que c'est un espace diplomatique qui a été utilisé à certains moments quand ça convenait aux acteurs libyens. Mais il n'y a pas vraiment l'attente d'une vraie influence. Moi, je me souviens par exemple de cette délégation d'avril 2011 qui avait essayé d'insuffler une espèce de logique de conciliation. Il y avait dans cette délégation de haut niveau la présence de Jacob Zuma d'Afrique du Sud qui venait de voter en faveur de l'intervention militaire de l'OTAN. Donc il y avait toujours une contradiction au sein de l'attitude de l'Union africaine. Donc cet espace diplomatique s'est utilisé dans les moments un peu calmes où on a besoin de se distancier par rapport aux Occidentaux. Mais il n'y a jamais vraiment l'espérance d'une vraie influence. À l'exception de l'Égypte, les factions libyennes qui ont de l'importance sur le terrain savent très bien que l'Union africaine n'a pas beaucoup d'effet, même pas capable d'interférer, que ce soit d'une manière positive ou négative.
Voilà, Jalel Archaoui, chercheur, avec Nicolas Sûr d'Afrique Midi.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Où s'est tenu ce matin le premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Les deux pays voisins ont convenu de renforcer leur coopération économique mais aussi sécuritaire. Binta Diagne.
Accra et Abidjan s'engagent à mutualiser leurs efforts en matière agricole, notamment pour lutter contre la contrebande dans le secteur du cacao, mais aussi pour augmenter les capacités de transformation des fèves de cacao au niveau local. Il s'agit par ailleurs de mutualiser les efforts sur le plan sécuritaire en organisant par exemple des exercices conjoints des forces de défense et de sécurité, de mettre l'accent sur l'échange de renseignements. Au niveau sous-régional, les deux chefs d'État, ivoiriens et ghanéens, veulent relancer un projet important, l'écho, la monnaie commune. Ce projet a été ralenti par le contexte économique défavorable lié notamment à la pandémie de Covid-19 et la hausse des taux d'intérêt ainsi que les déficits budgétaires, explique Alassane Ouattara. Mais le chef de l'État ivoirien se veut optimiste. Nous travaillons pour que l'année prochaine, 2026 au plus tard, nous ayons une convergence pour mettre en place l'écho, a-t-il indiqué. Un optimisme porté par la visite cette semaine d'une délégation du Fonds monétaire international qui a validé une nouvelle tranche de financement de son aide économique évaluée à 825 millions de dollars et qui a surtout approuvé les réformes fiscales menées par Abidjan pour réduire son déficit budgétaire. Bintadiane Abidjan, RFI.
L'environnement et la COP29 sur le climat qui débute dans un mois en Azerbaïdjan. 157 pays vont se réunir pour tenter de lutter plus efficacement contre le changement du climat. Le principal enjeu, c'est de trouver un accord sur un nouveau montant d'aide de la part des pays développés envers les pays pauvres. Les pays africains demandent désormais au moins 1300 milliards de dollars chaque année. Mais pour Fatouma Hussein, conseillère du chef de la délégation africaine, les pays du Sud n'ont plus confiance et les négociations s'annoncent difficiles avec les pays riches.
We were told by 2020 we will get 100 billion every year. But that has not happened.
On nous avait dit que d'ici 2020, on aurait 100 milliards de dollars chaque année, mais ça n'est pas arrivé. Et si certains rapports indiquent que ce montant a été atteint en 2022, c'est assez contestable parce que les pays du Nord comptabilisent tout et n'importe quoi comme étant de la finance climat. Donc ça a créé un grand problème de confiance. Et ce qui nous fait également douter des pays du Nord, c'est qu'ils cherchent toujours à se dédouaner de leurs responsabilités. Beaucoup de pays du Sud en voie de développement ont l'impression qu'il y a beaucoup de malhonnêteté de la part des pays développés quand il s'agit de mettre en œuvre ce qui a été convenu. Bien sûr, nous comprenons que cela va être difficile de réunir autant d'argent à eux seuls, qu'il faut trouver d'autres sources de financement. Mais ils ne proposent même pas de montant qui indiquerait à quelle hauteur ils pourraient contribuer. Cette COP29 va être un test décisif de tout le processus de négociation climatique.
Voilà des propos recueillis par Jeanne Richard et puis l'environnement. Toujours après 5 jours de discussion, la contre-COP, il y a la COP d'un côté, mais aussi la contre-COP des populations africaines, s'est achevée ce soir à Sali, c'est au Sénégal. 250 participants venus de 25 pays d'Afrique ont évoqué la place des communautés africaines dans la réponse à apporter au changement du climat. À un mois tout juste de la COP29, une déclaration en 10 points a été publiée. Elle appelle notamment à la mise en place du système de réparation promis lors de la dernière conférence, la fin des extractions de combustibles fossiles ou encore une réforme des lois foncières pour promouvoir la souveraineté alimentaire. Les participants exigent aussi une meilleure considération de la part des pays du Nord lors des discussions. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, minuit 47 ici à Paris, on parle de football. 16 matchs étaient au programme de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 ce vendredi. L'Égypte et la Côte d'Ivoire poursuivent leur carton plein en recueillant leur 3e victoire. Mais ce n'est pas le cas de la Tunisie, hein, surprise sur sa pelouse par les Comores pour le résultat inattendu de cette soirée. Babacar Diarra.
Le but de Rafiki Saïd après l'heure de jeu a provoqué une joie démonstrative des Solacantes. Et pour cause, c'est le premier succès comorien en Tunisie. Mardi, pour le match retour disputé à Abidjan, ils seront à un point derrière les Aigles de Carthage, premier du groupe A. De quoi rêver d'une deuxième qualification. Pour l'Égypte, celle-ci semble largement probable après la victoire de 0 au Caire face à la Mauritanie. Les Pharaons trônent en tête du groupe C avec 9 points, soit 6 de plus que les 3 autres membres du groupe. En s'imposant 4-1 devant la Sierra Leone sur la pelouse du Felicia, les champions d'Afrique ivoiriens ont également poursuivi leur carton plein dans ces éliminatoires. 4-1, un score qu'il partage avec le Cameroun, vainqueur du Kenya, dans un climat encore délétère en coulisses avec la menace de démission du sélectionneur belge Marc Brice, mécontent de ne pas avoir dirigé la rencontre avec son adjoint Joachim Mounounga. Le Malien El Bilal Touré a lui sauvé l'essentiel pour les Aigles qui ont dominé 1-0 la Guinée-Bissau et prennent seul la tête du groupe I. Ouf de soulagement au Nigeria avec la victoire 1-0 acquise à la 87e minute face à la Libye. Les Super Eagles s'évitent un 3e nul de rang et devancent dans le groupe D des Béninois vainqueurs 3-0 du Rwanda. Enfin dans le groupe K, le Congo a sombré 5-0 en Afrique du Sud et s'éloigne d'une qualification.
Babacar Diarra.
Thank you.
Au-delà du jardin, il y a la mer. C'est le titre de la nouvelle exposition d'Eladj Lindsay Delumo, un artiste peintre guadeloupéen âgé de 29 ans. Ses œuvres mixtes entre tableaux et sculptures sont à découvrir à la galerie Cécile Fakouri d'Abidjan. C'est un reportage de Marine Janin.
L'exposition se veut d'abord immersive. Les décors d'étoiles sont répliqués sur les murs, couverts d'argile ocre ou de carreaux de salle de bain. Elle est aussi interactive puisque le visiteur est invité à manipuler l'étoile sur un panneau coulissant, à s'observer dans une œuvre pourvue d'un miroir ou à marcher sur une sculpture en forme de puits. Toute cette scénographie, soigneusement étudiée, est le résultat d'un travail de famille, révèle Rosie Noah, manager à la galerie Cécile Fakouri.
La scénographie, elle a été pensée en grande partie par sa petite sœur, Orlane Nancy Delumo, architecte d'intérieur. Donc ils ont vraiment pensé toute cette scénographie ensemble et elle est construite en trois étapes, trois espaces. Il y a un peu cette idée de circularité aussi où on a cassé les murs, certains murs de la galerie pour créer des arrondis. Et on a transformé la galerie, on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Donc ça a été un gros travail, mais c'est vraiment magnifique.
Les matériaux utilisés sont guadeloupéens ou ivoiriens, du bronze, du bois, du rotin, du sable. Pour cette exposition, Eladj Lindsay Delumo a effectué une résidence artistique de 4 mois dans la ville côtière de Grand Bassam. Il mêle les références culturelles des deux territoires à travers les motifs du littoral, de la mer et du jardin.
Le jardin, c'est un espace familier, connu, quelque chose de très intime. J'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes qui ont quitté leur pays d'origine, leur zone de confort familier, pour pouvoir se diriger vers l'horizon en prenant la mer et explorer d'autres territoires. Et ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, malgré ces changements de territoire, de culture, d'ambiance, comment, en fait, ils ont pu créer leur propre intimité en y apportant du chez soi, en fait, par rapport à leur territoire qu'ils ont quitté, et comment, en fait, avec ce nouveau territoire, ils ont pu créer quelque chose de nouveau.
C'est justement le thème de l'afro-descendance qui a séduit Abishak Vundi, peintre martiniquaise venue découvrir l'exposition. Elle suit le travail de l'artiste depuis ses débuts.
Il travaille la peau noire, il travaille d'une façon qui, moi, me plaît, qui est un peu nostalgique. Et moi, je suis très heureuse qu'il arrive ici, à Abidjan, pour cette exposition. Il crée un vrai ancrage. C'est cet aspect aussi que je trouve important en tant qu'afro-descendant, en tant que jeune artiste, qu'il puisse s'ancrer sur la terre-mère et qu'il soit accueilli de cette façon.
L'exposition Au-delà du jardin, il y a la mer restera visible à la galerie Cécile Fakouri jusqu'au 28 décembre. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Good evening everybody. Ladies and people, please welcome Egypt AD. Born by the legacy of Fela Anikulapo Kuti.
Direction Marseille, où la 33e édition de la Fiesta des Suds s'est ouverte hier dans le sud de la France. Et comme chaque année, Hortense Vol, vous étiez sur place pour RFI. Bonsoir Hortense.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Oh oui, je suis fidèle au poste, car la Fiesta des Suds, Sylvie, c'est plus de 30 ans d'exploration des musiques des mondes et toujours une même ambition qui me sied, rassembler les gens, les genres et les générations. Le pari semble en tout cas une nouvelle fois réussi, Sylvie, puisque nous étions 8000 hier soir sur l'esplanade du J4 en bord de Méditerranée pour savourer une programmation qui jusqu'à dimanche mêle brûlantes découvertes, notamment Massaliot et artistes totémique.
Et parmi eux, Hortense, le Nigérian Sean Kuti, il était accompagné hier sur scène, non pas par son orchestre Egypt Haiti, mais par les frères Smith. C'est une figure incontournable de l'afrobeat hexagonal.
Oui, et sur scène aussi deux danseuses et chanteuses nigérianes, Sylvie, qui ont largement contribué à la flamboyance du show. Sean Kuti vient de sortir son 5e album Heavier Yet. Sur ce disque produit par Lenny Kravitz, 6 morceaux et 2 collaborations, l'une historique avec Damian Marley, l'autre très réussie sur le titre Emi Aluta avec la MC zambienne basée en Australie, Sampa the Great.
You know, with Damian, it was just like...
Vous savez, avec Damien, ça faisait trop longtemps. Les Kuti, les Marley et la musique contestataire, il était temps de terminer ça.
It's time. C'est le moment.
C'était le moment. Donc oui, ça s'est fait plus facilement que ce qu'on pourrait penser. Parce que Damien, c'est mon frère. Quand on s'est appelé, il était ravi de prêter sa voix au mouvement auquel nous appartenons tous les deux. À notre dynastie. Pour graver ce moment dans l'histoire, c'était important pour moi. Avec Sampa, on se connaît depuis longtemps. C'est une artiste visionnaire, très exigeante. Et nous avons enfin eu l'opportunité de travailler ensemble. Emi Aluta veut tout simplement dire l'esprit de la lutte. Et c'est une chanson qui appelle les esprits de nos ancêtres révolutionnaires pour nous inspirer de nouveau et nous faire avancer dans la lutte pour restaurer la dignité du peuple africain.
Sampa the Great sur RFI, ici en collaboration avec Sean Couty, qui était donc sur scène hier soir à Marseille, à la Fiesta des Suds.
Un événement, Sylvie, qui plus de 30 ans après avoir vu le jour sur la planète Mars a toujours la tête dans les étoiles, tout comme le natif de Dakar, MC Solar, qui a sorti cette année Lueur Céleste et Éclat Cosmique, les deux premiers volets d'un triptyque dont on attend la suite d'ici la fin de l'année. Avant qu'il ne monte sur scène, j'ai voulu savoir si Claude MC avait prévu de se produire bientôt chez lui au Sénégal.
Oh là 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 là. J'ai un Vincent là-bas au Sénégal que tous les Sénégalais, en tout cas tous les Dakarois connaissent, qui m'a envoyé un petit programme pour 2025. Je sais pas si je vais répondre positivement, mais j'ai très envie parce que la musique est extrêmement dynamique là-bas. Chaque fois que je vais dans un pays d'Afrique, je rencontre un des pionniers du hip-hop sénégalais, Awadi de Positive Black Soul.
Bien sûr.
Je vais à tel endroit, il est là. Je vais à tel endroit, il est là. Je retourne l'année d'après, il est là. Et donc, à chaque fois, il me raconte que c'est positif. Donc, c'est pas prévu pour 24, mais on a quelques ouvertures pour 2025.
Voilà, si
nous avons
une bonne nouvelle.
Ah oui, Hortense, en voilà une bonne nouvelle hein, pour vous qui nous écoutez à Dakar sur le 92 FM.
Elle se lève au petit matin, c'est une mannequin qui met du fond de teint. Survêt blanc, paire de Louboutin, elle est enfin prête pour le casting. Direction les transports en commun, elle dit bonjour monsieur, puis va dans son coin. Là le mec lui répond comme un, pour lui c'est de l'anglais, cela veut dire viens. Mocassin, la Giscard d'Estaing, il a de grands pieds, de grandes dents et de grandes mains. Le chaperon ressent d'instinct, c'est un loup-garou, ça n'est pas un humain. Sache que pour éviter la cata, elle a les cacatos, elle connaît les catas, elle sort de son cabas, puis le père de bata, puis lui envoie des kicks au nom de Marlène Chapa, c'est ding, ding,
ding, ding. La Fiesta du Sud, c'est jusqu'à dimanche sur l'esplanade du J4 à Marseille dans la cité phocéenne avec les concerts de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, de la rappeuse martiniquaise Meryl ou encore de l'artiste réunionnaise Maya Kamati. Maya Kamati avec qui nous allons refermer cette parenthèse marseillaise, Hortense, avant de la retrouver dans votre session musique spéciale Fiesta des Suds. Ce sera dimanche à 14h10 en temps universel sur RFI.
Casse-collée, allez casse-collée, casse-collée, allez casse-collée, casse-collée.
ballonne mon caviar. L'argument t'étais jamais get un boyo. Get boyo, get boyo. L'argument t'étais jamais get un boyo. L'argument t'étais, l'argument t'étais.
La Fiesta des Suds, comme ça on y était, c'est à Marseille jusqu'à dimanche. Merci pour cette belle découverte, Hortense Vol avec Benjamin Sarallier et Jérémy Bessé. Merci à vous de nous avoir suivis, bravo à toute l'équipe d'Afrique Soir, à la réalisation ce soir, Quentin Moulin. Restez à l'écoute, l'info revient dans quelques secondes.